Frères et sœurs, dans une pièce de théâtre que j'aime citer, dans laquelle on a affaire à Freud qui est perturbé, qui est perdu parce que sa fille vient d'être arrêtée par la Gestapo à Vienne. Et puis ce soir-là s'introduit chez lui un inconnu, il ne sait pas si c'est un fou, lui aussi recherché par la Gestapo d'ailleurs, ou si c'est Dieu. Et dans cette conversation avec cet inconnu, à un moment donné, il parle de la beauté. Et l'inconnu dit à Freud, « Ah ça, vous aimez ça, vous les hommes, la beauté ?» Et Freud lui dit, « Pas vous ?» L'inconnu répond, « Oh, moi, si, une fois j'ai été surpris, parce que je connais le murmure des nuages, je connais le chant des oies sauvages lorsqu'en bataillon triangulaire, elles mettent le cap sur l'Afrique, je connais les rêves des taupes, les cris d'amour des vers de terre, les entrées violente des comètes dans l'azur, mais ça je ne connaissais pas. J'ai cru tout d'abord qu'il s'agissait d'un de ces vents de la terre qui s'était égaré sur la voie lactée. J'ai cru que j'avais une mère qui m'ouvrait les bras tout au fond de l'infini. J'ai cru, Freud s'impatiente et lui dit, qu'était-ce ? L'inconnu lui dit, Mozart, à vous faire croire en l'homme. Frères et sœurs, si je vous cite ces lignes, c'est parce que Mozart, ça n'est pas tant une occasion pour Dieu de croire en l'homme qu'une occasion pour l'homme de croire en Dieu. De manière très puissante, je connais une dame qui me disait « Je ne croirais pas en Dieu si Mozart n'existait pas. » Ainsi donc, il y a quelque chose de beau et de puissant à travers la beauté du chant, et notamment du chant sacré. Nous avons la grâce, la joie sur la terre de goûter comme un véritable avant-goût du ciel. La beauté nous porte et nous transporte. Ces moments, frères et sœurs, où nous avons ces grâces intérieures de goûter déjà le ciel sur la terre, il faut que nous les gardions précieusement, chacun, dans notre bibliothèque de gratitude. Voyez-vous, il y a peu de temps, je dînais dans une famille, et au cours du dîner, nous avons tellement parlé du ciel, les enfants compris, ils parlaient tellement du ciel, toutes les questions portées sur le ciel, qu'à la fin du dîner, en montant dans ma voiture, je disais au Seigneur, « Seigneur, c'est extraordinaire, ce banquet avait quelque chose de céleste. Je ne savais plus trop si j'étais au ciel ou sur la terre. » Vous voyez, eh bien ces moments, il faut les garder précieusement dans notre cœur. Pour autant, frères et sœurs, cette beauté qui peut nous conduire jusqu'à lui, qui nous donne un véritable avant-goût du ciel, elle a pour le chrétien une forme bien particulière. La beauté chrétienne va toujours de pair avec la bonté. C'est ce qu'on a entendu dans la première lecture. C'est assez extraordinaire cette lecture. Dieu arrive et dit à Salomon, « Demande-moi tout ce que tu veux. » Aurore, si tu pouvais demander à Dieu tout ce que tu voulais, qu'est-ce que tu lui demanderais ? T'as une idée ?
Non.
Elle n'a pas d'idée. Alors moi j'ai plein d'idées, hein. Moi pour commencer je crois que je demanderais un énorme chalet en montagne pour qu'on puisse tous partir tous les hivers 15 jours ensemble à la neige avec une grande chapelle en bois, voyez, vitrée, vue sur le Mont Blanc, vous imaginez. Je voudrais aussi un food truck pour faire des missions dans les villages, enfin bref, la liste est longue, mais curieusement Salomon ne demande ni un chalet, ni un food truck. Il demande la grâce de discerner le bien du mal. Demande étonnante qui touche le cœur de Dieu. À tel point que Dieu lui dit immédiatement, c'est d'accord, pas de problème, je te donne cela, Salomon. Et d'ailleurs, et c'est dommage parce que la liturgie coupe la lecture au mauvais endroit, on n'a pas entendu la suite. La suite, le Seigneur dit à Salomon, non seulement je te donne ça, mais je vais aussi te donner ce que tu n'as pas demandé. Je vais te donner aussi la richesse et la gloire. Ça, c'est très important. Vous savez, dans une des toutes premières homélies de Benoît XVI, pour l'inauguration du pontificat sur la place Saint-Pierre, à la fin de l'homélie, il s'est adressé aux jeunes. Il leur a dit ceci, « N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Ouvrez toutes grandes vos portes au Christ, alors vous trouverez la vraie vie. » Je vous dis cela parce qu'on a tous quelque part dans l'arrière-crâne une petite voix qui nous dit « Ne va quand même pas trop avec le Seigneur parce que du coup, tu vas perdre des choses. Ça va être un peu ennuyeux, ça va ratatiner ta vie. Alors que c'est le contraire qui est vrai. Celui qui s'approche de Dieu goûte une nouvelle fécondité. Je reviens à ce Salomon qui demande de discerner le bien et le mal. Figurez-vous que c'est exactement ce passage de l'Écriture que Benoît XVI a choisi quand il est allé en Allemagne pour parler devant le Parlement allemand. C'était un voyage qui était un peu difficile. Je vous passe les détails, mais c'est vrai que l'Allemagne est dans un état un peu catastrophique sur le plan sociétal, et c'est sans parler de l'Église. Quand on interrogeait le vieux pape Benoît XVI sur l'Église en Allemagne, il disait « Oh, l'Église en Allemagne, on préfère ne pas en parler ». C'était pour lui une grande souffrance, en vérité. Et devant le Parlement, il ne fait pas un discours de politique générale, évidemment, mais il s'arrête sur cette figure de Salomon. Et il fait un discours magistral, dans lequel il explique aux députés que ce qui est capital, c'est que la loi soit au service du bien véritable. Or, en Allemagne, on sait ce que c'est qu'une loi injuste, une loi inique. Il y a quelques dizaines d'années, les lois nazies. Et heureusement qu'il y a eu des gens perspicaces, des gens attentifs à la voix de leur conscience pour se dire « là, c'est parfaitement injuste, je dois désobéir, je dois résister ». Mais sur quels critères ? La question n'est pas si simple. Et le pape explique aux députés que pour un chrétien, les sources du droit ne sont pas dans un livre révélé, nous n'avons pas un code juridique qui nous est tombé du ciel, mais Dieu nous a donné notre raison, notre conscience, et Dieu nous a donné le grand livre de la création. Et que l'être qui nous entoure et que l'être que nous sommes nous donne un devoir être, nous indique une manière d'être, de vivre et d'agir. Et que cela est très précieux, mais que cela mérite d'être écouté attentivement, délicatement, et d'être suivi. Frères et sœurs, quand il est arrivé dans ce Parlement, c'était palpable, une grande majorité des députés étaient plutôt sur la réserve, voire carrément hostile. Ce pape que l'on disait conservateur et tout, alors les gens sont là, ils attendent tels des snipers. À la fin du discours, il est applaudi à tout rompre. C'est incroyable, c'est impressionnant, un véritable miracle. Pourquoi ? Parce que ces députés qui pourtant ont voté bien des lois qui quelque part se retournent contre l'homme à moyen ou long terme, eh bien ces députés, tout au fond d'eux, ils ont senti que le pape disait vrai, que le pape touchait juste, que le chemin qu'il indiquait était un chemin authentique, qui construit l'humanité, qui construit le cœur de l'homme. Et tout au fond, c'est tous ce que nous désirons, même lorsque c'est parfois difficile, ardu, même si c'est contraire à la mode, qui se démode de toute façon. Mais voilà, ce courage de chercher le bien véritable, c'est ce que demande Salomon. Frères et sœurs, la beauté chrétienne qui s'allie à la bonté, elle a un symptôme. C'est que la beauté chrétienne, elle intègre ce qui est blessé et ce qui est pauvre. D'abord parce que la beauté chrétienne passe par des pauvres. Vous l'avez remarqué, Mozart, vous pouvez chercher dans le calendrier, il n'y a pas de saint Mozart. Il n'est pas canonisé, il n'est pas canonisable. Il avait une vie un peu... On ne va pas juger, mais voilà. Certains diraient qu'il était fêlé, ce type. Eh bien, tant mieux, au moins il laisse passer la lumière, comme dirait l'autre. Mais Dieu passe par des pauvres. Salomon, dont je viens de vous parler, Salomon, en vérité, pour qu'il puisse régner, sa mère a éliminé tous les rivaux et lui-même s'est débarrassé de ses opposants. Quand le Seigneur lui dit « Bravo, Salomon, parce que tu me demandes un cœur plein de sagesse, tu ne me demandes pas d'éliminer tes ennemis », c'est un peu ironique, parce que Salomon s'en est chargé. Et donc, quand il arrive devant Dieu, ça n'est pas un saint du tout. C'est un pauvre, on peut même dire un misérable. Mais Dieu passe par là. Et frères et sœurs, si nous sommes un brin lucide, nous pouvons reconnaître que tous nous entrons dans la case. Dieu passe par nous qui sommes des pauvres, des misérables, voyez-vous. Tous, nous sommes à même enseigne. Même nos invités du jour, que je ne veux pas vexer, mais sous leur costume magnifique, eux aussi, évidemment, ce sont des pauvres. On peut même dire que ce sont des PLDB. De quoi s'agit-il ? Des pauvres laïcs de base, tant qu'ils ne sont pas rentrés au couvent ou au séminaire. Non, mais ça, excusez-moi, ça n'a rien à voir. C'est parce que je suis chargé des vocations dans le diocèse. Alors, voilà. On referme la parenthèse. Mais donc, du coup, cette pauvreté, voyez-vous, frères et sœurs, c'est fondamental. Et du coup, la beauté chrétienne, elle se reflète d'abord, curieusement, mystérieusement, sur le visage d'un homme crucifié. La beauté chrétienne, elle intègre elle assume ce qui est blessé pour le transfigurer d'une manière étonnante. Je prends un tout petit exemple, vous me pardonnerez, c'est vraiment une anecdote, mais dans le concert que vous nous avez donné, absolument magnifique, vendredi soir, on n'a repéré qu'un défaut, je crois. À un moment donné, l'une d'entre vous a une toute petite extinction de voix pendant la partie qu'elle devait chanter. Et ce qui était magnifique, c'est que, au lieu d'en être renfrognée, amère, elle en a souri. Ce sourire était magnifique. Je me suis dit, quelque part, c'est la blessure transfigurée. Mais c'est beau, vous voyez. Et c'est ça, la beauté chrétienne. Elle transfigure tout, elle assume tout. Jésus, dans sa gloire, il est avec les plaies, mais des plaies transfigurées. Dieu passe par là. Ça n'est pas une beauté plastique, c'est exactement l'inverse du nazisme. Dans le nazisme, il y avait un esthétisme. Les nazis étaient épris de musique et d'art. Mais c'était un art parfait, plastique, où le défaut et la pauvreté n'avaient pas sa place. Pas sa place. Ça n'a rien à voir avec la beauté chrétienne. Seigneur, la grâce que nous te demandons ce matin, c'est que notre soif de beauté aille toujours avec un grand désir de choisir le bien, d'être bon chaque jour. Avec ta grâce, Amen.